Rabotaï, donc après qu'on a fait un premier shiur sur l'enjeu du Dayen ou l'exigence du Dayen vis-à-vis des Nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, et comment on doit réagir à ça, nous et nos enfants, quel est ce message derrière le Dayen, quel est le réflexe qui s'appelle Dayen. Maintenant on peut commencer à monter dans ces 15 escaliers. Kama ma'alot tovot lamakom aleinu, nous avons 15 ma'alot, 15 escaliers. Dis-le à Boudraham, les 15 escaliers du Dayenu, ce sont une comparaison, il fait la comparaison, Elouen, Keneget et Dvav Ma'alot Sheba Mikdash, comme les 15 escaliers du Bet Amikdash, Mezrat Nashim sur sa Ezrat Israël. Et aussi, c'est comparé aux 15 Shira Ma'alot qu'il y a dans le Tehilim, Shamar David, Besha'a, Sheba, Larfor, etc., etc. Et donc, c'est un chiffre magique, c'est un chiffre 15, c'est un chiffre yesodi, c'est un chiffre de fondamental. Et quand on dit le mot Yesod est fondamental, dans la Haggadah du Rabbi lui-même, il nous fait remarquer, qui est écrit dans le livre Mishnah Trasidim, que Dayenu, valeur numérique, Yesod. Donc ce n'est pas Stam que ce piyout, c'est un Yesod. Okay? Quel est le Yesod de ce piyout? Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 15, ces 15 ma'alot, et qui sont Yesodi? Agave, avant de commencer le premier escalier, je voudrais faire deux remarques. Première remarque, c'est celle justement du Rabbi dans sa Haggadah, que chacun devait faire cette remarque, que personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, c'est quand tu comptes les Dayenu, il y en a 14, il n'y en a pas 15. Tous nos Haggadot, il y a 14 Dayenu, il n'y a pas 15. Comment on peut dire que c'est 15, et 15 Ma'alot, et 15 Shira Ma'alot, et 15 escaliers? Comment c'est possible une chose pareille? Il y a que les feux rouges, il n'y a que 14. Le Rabbi ramène dans les Haras, là-bas, dans sa Haggadah, qu'il a trouvé certaines versions, qui rajoutent une phrase, carrément. À la fin des Dayenu, il y en a un 15e Dayenu pour que ça fasse 15. Mais dans tout nos Haggadot à nous, ça reste 14. Alors comment on peut dire qu'il y a 15 Ma'alot, le Boudraham et tous ces Mefarshim qui parlent de 15 Ma'alot? Et le Rabbi répond là-bas, mais en vérité, je pense que c'est logique. Le Rabbi dit que c'est Bedorak, mais c'est logique en vérité. Dayenu, il y en a 14, c'est vrai. Mais il y a 15 miracles. Premier miracle, Dayenu, on fait le deuxième. Troisième, Dayenu, quatrième, etc., etc. On arrive au 14e, le dernier Dayenu, mais il y en a un 15e. Si on aurait eu le 14e, ça suffit, c'est un Dayenu, mais il y en a un 15e. Donc il y a 15 miracles et 14 Dayenu. Je prends pour preuve le passage tout de suite après. Regardez, Al-Khad, Kama, Vekama, quand on récapitule. En fin de compte, on n'a pas fait Dayenu. En fin de compte, on va lister tous les miracles. Et là-bas, il y en a 15. Donc on pouvait se contenter de 14, mais il y en a effectivement 15. Le dernier, Ilou Ichnissan ou l'Eretz Israël. Si seulement on serait rentré en Eretz Israël. Velo Banal, on n'aura pas eu le Bet Amikdash Dayenu. Donc ça fait 14. Mais concrètement, on a le Bet Amikdash, donc ça fait 15. Al-Khad, Kama, vous listez, il y a une liste de 15. Ça, c'est la première réflexion sur le mot 14. Je ne sais pas si vous avez compris le Diouk, c'est facile. Deuxième, Ehara, je voudrais vous faire remarquer que je ne vais pas rentrer ici parce qu'elle est surtout sur la Haggadah elle-même, mais pas sur le Dayenu. C'est la phrase, la formulation de la phrase. Kama ma'alot tovot lamakom aleinu. C'est hyper bizarre comme formulation. Combien de ma'alot tovot, combien de panissim ma'alot, combien de d'avantages lamakom, Kadosh Baruch Hu s'appelle makom aleinu sur nous. Wow, c'est vraiment, vraiment un peu balagan. Kadosh Baruch Hu s'appelle makom, ce qui est pas tellement commun, c'est rare que c'est Kadosh Baruch Hu s'appelle makom. En général, on le dit quand on fait Nichum Avelim, on va chez les endeuillés, on dit à makom yenachem et trep. Mais ici, il s'appelle Amakom. Et pas seulement ici, dans la Haggadah, on voit une autre fois qu'il s'appelle Amakom. Baruch Amakom, Baruch Hu, quand on va parler des quatre enfants, là-bas aussi, tu s'appelles Amakom. Donc pourquoi dans la Haggadah, on a choisi le mot Makom beaucoup plus qu'en d'autres endroits? Ça, je mets, c'est un rapport avec la Haggadah de manière générale, je mets de côté. Moi, je voudrais commencer cette première escalier, à savoir, on commence. Ilu, Otsianu, Mimitsraim, Velo, Asa, Bahem, Shefatim, Dayenu. On commence le premier escalier, c'est seulement on serait sorti d'Égypte. On n'aurait pas fait souffrir l'Égypte, on n'aurait pas cassé l'Égypte, on n'aurait pas frappé l'Égypte. Dayenu. On va essayer de comprendre cette phrase, Rabotai. On y va. Alors, quand on essaie de traduire cette phrase, elle semble très bizarre. Imaginez-vous un monde où on sort d'Égypte, mais l'Égypte reste intacte. Il n'y a pas un cheveu d'un Égyptien qui tombe. Comment tu peux dire Dayenu? Alors, le problème, c'était l'Égypte. La Tsara, c'était l'Égypte. Sortir d'Égypte et laisser l'Égypte menaçante, c'est comme si je viens, je fais le parallèle avec la guerre qu'il y a maintenant. Il y a un problème avec un gouvernement, il y a quand même un problème avec ces mots-là. D'accord? Si je viens et je fais du mal à un projet nucléaire, mais je laisse l'Iran tel qu'elle est, ben ils vont le refaire. Il y a une svara, il y a un sens à tout ça si l'Égypte capitule. Si nos ennemis capitulent, s'ils restent les mêmes, on voit Pourim, on a dû se battre, Kilo. C'est pas suffisant juste que moi je me sauve. Comment la Gada peut dire Ilo Tsiyano Mitzrayim? Imagine, je sors d'Égypte. Et l'ennemi reste tel qu'il est, avec sa même cruauté. Ben demain il va venir nous chercher à nouveau. Je veux dire, c'est quoi le sens de sortir d'Égypte si l'Égypte reste l'Égypte? C'est l'ennemi numéro un, l'Égypte. Le pire ennemi qu'on a pu avoir. La pire galoute. La mère de tous les galouillottes. Est-ce qu'il y a un sens que la Tzet et Mitzrayim aient laissé l'Égypte complètement, avec sa force et sa puissance et sa chzariout, sa cruauté? Quel svaraïe ici? Comment on peut comprendre cette phrase? Comment on peut comprendre cette phrase? Étonnant, étonnant. Et donc aujourd'hui, je voudrais ramener un pirouche de la Agada du Rida. Maran Rida, il a écrit 6 pirouchim sur la Agada de Pessah. Il s'appelle Pe'echad, c'est un des livres, j'ai noté les noms. Simchat Aregel, Zroa Yamin, Geulat Olam, Safahat, Batea Nefesh. Le pirouche que je ramène maintenant, il le ramène plusieurs fois. Même dans d'autres pirouchim qui n'est pas dans la Agada, Chomat Anach, d'autres pirouchim, parce que le Rida, il a 130 livres, je ne sais pas combien de livres il a. Okay, mais ce pirouche, je l'ai vu plusieurs fois sur plein d'autres endroits. Et il vient sur ce passage-là, Je voudrais, donc dans Pe'echad, il le ramène, et dans Batea Nefesh, dans deux endroits, il le ramène. Et je voudrais expliquer, ramener ce fabuleux pirouche du Rida pour essayer de comprendre cette phrase aujourd'hui. Dis le Rida comme ça, je vais essayer de dire par cœur, essayer de vulgariser un peu tout ça. C'est un long Rida, enfin, c'est pas mal. Je le mettrai, Bezrat Hashem, sur le groupe, vous pouvez le lire. Parce qu'il y a plein de choses que je pourrais pas dire, ça compliquerait trop les choses. Je vais essayer d'en le plus simple possible pour arriver à l'idée même du Rida, comment comprendre cette phrase. En réalité, nous dit le Rida comme ça. Quelle est la raison, et ça c'est la plus grande des questions, on l'a posée déjà 100 fois dans nos shiurim, parce que tout le monde la pose cette question, quelle est la raison réelle que les juifs ont eu ce sort qui s'appelle l'Égypte? Ils n'ont rien fait, qu'est-ce qu'on leur reproche? Kadosh Baruch Hu, il décide qu'Am Israël va rentrer en Égypte, il va souffrir en galoute, lama. Quelle est la raison? Et là, le Rida, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, a priori, il y a une contradiction. Quand je regarde dans les Sfarim, chez Chazal, dans le Zohar, etc., on voit qu'il y a deux raisons, la Torah elle-même, deux sources qui expliquent la galoute Mitzrayim, qui sont presque contradictoires, Betsem, qui n'ont aucun rapport, ces deux sources. Ce que nous, on sait, par exemple, c'est Brit Ben Abetarim. Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, ton fils, tes enfants, guerriers, Zaracha, Be'eretz Lolaem, va à Vadoum, Veinuotam, ils vont entrer en Égypte, ils vont souffrir, etc., etc., Arba Motshana, 400 ans. Après, ils vont sortir, Berkhush Gadol, et je vais Dan Anochi, même, je vais punir les Égyptiens, etc., etc. Et ça, c'est la raison pour laquelle, Kadosh Baruch Hu, il a accompli sa promesse, il a mis le peuple juif en Égypte. C'est-à-dire qu'on a une mission en Égypte. On est parti là-bas. Il explique le Chida, Brit Ben Abetarim, il faut bien comprendre cette idée. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il annonce Abraham Avinu, c'est pas une punition, si tu veux. Vous allez là-bas parce qu'il y a une mission. C'est pas une punition, c'est une mission. Vous devez aller en Égypte. Et de vous dire, abattre l'Égypte. C'est quoi abattre l'Égypte? Ça veut dire aller là-bas, je vais punir les Égyptiens, vous allez vider leur argent. Yetsu Berchush Gadol, Dan Anochi. Maman, je vais aller là-bas pour ce qu'on appelle, il ramène le Harizal, vider tous les Nitzotzot, les Kedoshot qu'il y avait en Égypte. Il y a plein d'étincelles Kedoshim. Et vous allez là-bas, vous allez vider tout. Vous allez quelque part enlever ce qui justifiait à l'Égypte d'exister. Qu'est-ce qu'elle existait aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses à récupérer, des nitsotsot, des trucs, des gdouchas. Vous allez là-bas, vous allez prendre tout l'argent, tous les kélines, tous les habits. Et hop, c'est ce qu'a l'Égypte va s'effondrer. Ça, c'est la shlichut du Ham Israël en Égypte. Ça, c'est Brit Ben Abetarim. Donc, ne cherche pas une punition, c'est pas une punition. Il y a une mission. La mission, elle n'est pas évidente, mais il fallait aller là-bas. Pour récupérer une nitsotsot qui est en Égypte, il faut peut-être subir 400 ans. Zemayesh, ça c'est la svara de Brit Ben Abetarim. Les laquettes nitzotzot. Pashut, aller chercher tout nitzotzot de l'Égypte. Et donc, dit le Rav Rida, si tu comprends ça, que c'est une mission, tu comprends que dès que la mission elle est finie, l'Égypte a tout donné ce qu'elle avait. Elle s'est vidée de sens. Évidemment, le pasuk nous dira, ne retourne plus en Égypte, il n'y a rien à faire là-bas. Nikbar, l'otosif ou nirotam, adolam, nikbar, t'as pris tout ce qu'il y avait à prendre. Qu'est-ce qu'un juif il a à faire en Égypte? On est parti pour une raison là-bas. Et donc, tu as fini la raison, tu as pris tout ce qu'il y avait à prendre, l'Égypte n'a rien à donner à Israël. Gamar, non, tu ne retournes plus en Égypte. Basta. C'est Zman Katsouf, dit le Rida, 400 ans, tu as pris tout ce qu'il y avait à prendre, Barachen Yetse Bechouj Gadol, et Nigmar Asipo. Ça, c'est quand on parle de Brit Ben Abetarim. Ça, c'est une raison. Mais, dit le Maran Rida, que le Zohar, il hurle, comme ça, il dit le Maran Rida, il hurle une autre raison, Bechal, qui n'a aucun rapport. Celle qu'on connaît nous aussi, dans l'esprit de chacun d'entre nous. Que Bechla, l'Égypte, c'est une punition, Mechirat Yosef. Les frères, les Shvatim, ils ont vendu Yosef. Il fallait les punir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ils vont venir, ils vont aller en Égypte. Et puisqu'ils vont aller en Égypte, et ça sera leur punition. L'Égypte, c'est la punition pour le fait qu'ils ont marqué Joseph. Et alors, dans ce cas-là, j'ai pas de but d'exterminer l'Égypte. J'ai pas de but de vider l'Égypte. Je suis en prison. Si moi je vais en prison, à la santé, Shamish Morviatil, je vais pas tuer le policier, je vais pas me venger sur le juge. C'est une punition, je suis là-bas. J'ai fini ma punition, je sors. Est-ce qu'un jour je serai amené à revenir là-bas? Peut-être. Si je serai encore une fois, je fais encore une Avera, je repartirai en Égypte. C'est deux choses différentes. La première, Ben Abetarim, c'est une mission, littéralement, d'aller récupérer ce qu'il y a en Égypte et pas soudre que l'Égypte n'existe plus après. Deuxième chose, c'est que l'Égypte peut exister, elle peut rester forte, elle peut rester en bonne santé. Au contraire, c'est la santé, justement. On a juste été là-bas pour être punis. Et Dieu, il a choisi l'Égypte pour nous punir. Comme Arnaud. C'est deux sparons différents. Deux sparons différents. Alors, quelle est la vraie raison, Bémet? C'est ça ou c'est ça? Dit le Rafridin Ridou Shatsoum. La vraie raison, c'est Brid Ben Abetarim. On a une mission en Égypte, de vider l'Égypte, de prendre tous les Nitzotzot. Si de toute façon on est là-bas, dit le Rafridin, alors ça tombe bien. Les Shvatim, ils ont fait une erreur. Ils doivent être punis. De toute façon, on doit aller en Égypte. Donc ça va, hein, ça va faire deux pour le prix de un. Donc on a passé la punition à l'endroit où de toute façon on devait être là-bas pour la mission. Mais les deux raisons sont vraies. Ce qui explique, par exemple, pourquoi Menaché et Ephraïm, les deux tribus, ils étaient en Égypte. Alors, ils n'ont pas fait Mechirat Yosef. C'est les enfants de Binyamin. Non, ils sont en Égypte pour la Xéra. Yaakov, pour aller en Égypte, il n'a pas fait Mechirat Yosef. Non, tout le monde est parti pour la Xéra. En même temps, on a profité qu'on est en Égypte pour purger la punition. Maintenant, c'est pas rien, Rabotai. Comprenez bien. Il fait un calcul, c'est pour ça que je vous dis, il faut le lire dans le texte, parce que c'est fabuleux. Il fait un calcul là-bas, qu'en réalité, on devait être en Égypte, concrètement, 190 ans. Pour Xerat Bein Abetarim, pour la Xerat, après tout le calcul, on a enlevé tout ce qui est, etc., tous les calculs, regardez là-bas, on doit rester en Égypte 190 ans, on peut sortir. On est sorti à 210 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini de purger la peine de l'Égypte, de Brirat Yosef. Donc on voit que vraiment les deux svarot, les deux raisons de l'Égypte sont ensemble, et des fois, s'il y a une qui dépasse par l'autre, alors il faut purger la peine. Donc le principe d'être en Égypte, c'est Ben Abetarim. Mais aussi, on a purgé une punition. Et les deux doivent être bien ancrés dans notre tête. Les deux sont Galout Mitzray. Les deux sont Galout Mitzray. Donc on ne retourne pas en Égypte, parce qu'on a fini avec l'Égypte. Mais pourquoi on était en Égypte? Parce qu'on aussi, on a fait la punition et la Xéra. Si vous comprenez ça, je vous dis, c'est incroyable, parce que regardez le Rida, on peut reprendre énormément de questions autour de Galout Mitzrayim et tout ce qu'il y a après, etc. Chaque fois, ça dépend si on parle de le principe de Xerat Ben Abetarim, ou c'est juste parce qu'on est là techniquement pour poser une punition. Fabuleux. Ça met beaucoup d'ordre dans l'histoire de Galout Mitzrayim. Si vous comprenez ça, alors la phrase, elle est fabuleuse. C'est tout ce pile-poule là, tout ce ridouche dans une seule phrase. Dit le Maran Chida, si on serait sorti d'Égypte, seulement sorti d'Égypte, ça veut dire quoi? On est sorti d'Égypte à 210 ans, pourquoi? Parce qu'on a purgé la peine. Si c'est juste Mitzad, purger la peine sur Mechirat Yosef, j'ai pas besoin de frapper les Égyptiens. J'ai rien à prendre de l'Égypte, ni besoin de prendre d'argent, ni besoin de frapper les Égyptiens. Toute cette histoire de frapper les Égyptiens, briser l'Égypte, c'est pour Ben Abetarim. C'est une autre histoire. Là, quand je sors d'Égypte, Mitzad Mechirat Yosef, c'est juste, je sors d'Égypte, les Égyptiens ils peuvent rester. Comme je sors de prison, le policier il est là, le juge il est là, la prison est là. Ça change pas, moi j'ai purgé ma punition, je suis venu juste purger une punition. Je suis pas venu vider l'Égypte. Je suis pas venu détruire l'Égypte. Mais ça, Gia Yetzia, Be'atzma, dit le Chida. La sortie elle-même, elle suffit. Je suis venu pour une punition. Mais à tout, la Mali, pourquoi j'ai besoin de plus? Pourquoi j'ai besoin de frapper l'Égyptien? Je sors de prison, je vais mettre un coup de poing au policier. Alors c'est ridicule. Au contraire, il faut que le policier soit fort. Pour que demain, si Hachem met une punition, on revient en Égypte. Donc, faut comprendre que Be'etzem, le début de la sortie d'Égypte d'abord, c'est pour rectifier Mechirat Yosef. Et pour ça, j'ai pas besoin de détruire l'Égypte, pas besoin de Diplé, pas besoin de Mammon, rien besoin. Je suis venu en Égypte, j'ai purgé ma peine et je suis sorti. Viendra après un autre escalier. Malach Eret, que celui, il parle de Bechlal, de Brit Ben Abetarim. Ça, c'est une autre histoire, Bechlal. On verra la prochaine fois. Mais d'abord, le Yesod, la première chose, le premier détail, la première escalier, c'est, on a fait une Avera, on est parti en Égypte, on a été, Baruch HaShem, lavé, grâce à l'Égypte. Et pour ça, j'ai besoin de tuer l'Égypte, j'ai besoin de frapper l'Égypte, j'ai besoin de moi passer, prendre la punition et partir à la maison. Il otia le mitzraïm. Dayeinu, ça suffit. Viendra une prochaine étape, c'est Bet Abetarim, ou les grands projets pour notre prochaine étape. Mais comprenez bien, c'est magnifique ce qu'il dit le Chidaï, c'est un beau pile-poule. C'est une belle idée. Il otia le mitzraïm, biglal mechirat Yosef. Je sors d'Égypte après Mechirat Yosef. Et eux, ils n'ont rien à perdre. Ils ont juste donné la punition. C'est leur rôle en tant que policier. D'ailleurs, non. Maintenant, bien sûr, très, même s'il faudrait ajouter quelque chose pour finir. Un sentiment presque personnel. Qui aussi, je pense qu'il est habillé dans chacun de ces mots-là. Et je pense que c'est un bon moussard aussi. Si je peux me permettre. On a vu bien le Chida. On a bien compris. Je voudrais peut-être dire qu'il y a aussi une phrase qui se cache ici qui est incroyable, qui est puissante. Là, elle me tient beaucoup à cœur parce qu'on en parle peut-être souvent, ou peut-être pas assez, mais je pense qu'elle est fondamentale. C'est un yesod. D'ailleurs, nous, c'est yesod. Il ouotzi anu mitzrayim velo asabahem shefatim. Rabotai, il y a des gens, on a tous des tzarot. On est tous dans des situations qu'on a besoin de Géoula. J'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de sortir d'une certaine détresse. Dit le Baal HaGada. Les gens pensent que pour sortir de ma détresse, il faut que je m'en prends à celui qui m'a mis dedans, dans cette détresse. Si je suis un salarié dans mon patron qui m'a fait subir pendant 10 ans, et je voudrais être indépendant, tu crois que ton indépendance va passer par le fait que tu vas toute ta vie essayer de te venger du patron? Une vraie Géoula, elle doit être concentrée sur ton sort, sur ta Géoula, et ne pas être concentré sur la vengeance de celui qui t'a mis dans cet état. La bataille, dans toute la vie, c'est comme ça, c'est incroyable, la bataille, c'est incroyable. Je vous dis ça parce que c'est un sujet qui déchire le cœur, ça peut être dans un divorce. Si Hachem Ishmor, un couple ne peut pas vivre ensemble, je pense que ce mari-là, il m'a fait souffrir pendant des années. Et toi, tu veux sortir le chérout. Il faut divorcer, tu veux prendre une nouvelle route. Si tu penses que ton nouveau chemin va passer par le fait que tu vas faire souffrir ton ancien mari ou ton ancienne femme, ces divorces-là qui font en sorte, toute la journée en train de faire en sorte que je me venge de celui qui m'a mis en état, alors tu ne sors pas les Kherout. Parce que Kherout, Géoula, c'est un mahalach nafshi, comment on dit ça, mahalach nafshi, c'est un processus individuel qui doit être dépendant que de toi-même. Il ne peut pas dépendre du fait que celui qui t'a mis dans le mal, il fait tomber. Si tu es au sec, si tu penses que ta Géoula, ta délivrance passe par le fait que tu vas te venger et tu vas faire en sorte de faire tomber celui qui t'a fait du mal, alors tu ne seras jamais libre, au contraire. Tu es encore vraiment sous son emprise pour l'éternité. C'est aleph bet de psychologie, ça. Je dis ça, c'est un sujet sensible. Il y a des gens qui font leur alia, qui est la mitzvah la plus grande au monde. Tu fais ton alia, tu vas en Eretz Israël. Ils sont à souk, ils sont occupés toute la journée à montrer pourquoi les juifs en France sont en danger. Ça, c'est pas une alia, Rabotai. Ça, c'est un divorce qui n'a pas été divorcé. Il prend la France avec lui là-bas. Tu fais une alia, c'est un mahalach, tu vas là-bas parce que tu veux Eretz Israël, tu veux monter Bikdusha, tu veux habiter dans l'endroit le plus kadosh du monde. Si tout le temps t'es occupé à comprendre et à expliquer pourquoi là-bas, l'ancien endroit, il a jamais changé, alors t'as pas une Géoula. T'es pas sorti, t'es encore là-bas. Pour se libérer, il faut que c'est toi qui te libères tout seul, aucun rapport. Tu dois être un juif, même s'il n'y a pas d'antisémite. Il y en a que leur judaïté, c'est quoi? C'est de montrer combien antisémite il est mauvais. Ça, c'est pas un judaïsme. Un mahalach nafshi, un mahalach individuel, c'est un mahalach qui n'a aucun rapport avec ton oppresseur. Aucun rapport avec ton oppresseur. Quitter l'Europe, quitter l'Amérique et vouloir une seule chose, c'est que l'Europe elle coule, l'Amérique elle coule, c'est pas une Géoula ça. T'es un vrai évêque, t'es un vrai serviteur, t'es pas sorti encore. Il faut une Géoula ici, il faut une Géoula personnelle qui dépend que de toi, c'est un mahalach que tu fais avec toi-même. Pas qui dépend de celui qui t'a oppressé, et combien lui il sera plié, toi tu seras plus libéré. Ça c'est une galoute, c'est Betor galoute. Ilu otsianu mitzrayim velo asa bahem shefatim. Si tu sors d'Égypte et t'as rien fait à l'Égypte, l'Égypte elle est encore en plein. Dayenu! L'Égyptien qui t'a fait du mal pendant 400 ans, il peut rester jusqu'à demain. C'est pas lui qui va impacter ma Géoula. Ma Géoula elle est la mienne. Dayenu rabotai. Dites-vous ça dans la tête, dans chaque sujet. Quand vous faites quelque chose, il ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Même si l'autre, il t'a mis dans la situation la pire au monde et il t'a contrôlé. Il ou tiano mitzraim, velo asabem shefatim, dayeinu. Ça, c'est une Géoula. Voilà, Rabotai.